France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
6h20, bonjour François Méril.
Bonjour.
François Méril, vous êtes le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Le gouvernement présentera au printemps la réforme de l'assurance chômage. Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, a évoqué la possibilité de réviser les règles pour les salaires des cadres. Pour faire simple, la question du plafond et de l'abaissement du plafond d'indemnisation est posée. Pourquoi ce n'est pas acceptable selon vous, François Méril ?
C'est pas acceptable parce que l'assurance chômage, comme son nom l'indique, est un système assurantiel. C'est-à-dire que les gens qui y contribuent participent à due proportion de leur salaire à un système d'assurance pour s'assurer du risque de se retrouver au chômage. Donc c'est une assurance du risque de perdre le revenu que l'on a quand on est en activité. Actuellement, dans le régime, à peu près 35 milliards d'euros de budget, 42% des ressources du régime sont assurées par des cotisations sur les salaires des cadres. Et seulement 15% vont au même public. Donc, si vous regardez, c'est à peu près 2/3 des contributions des cadres qui vont à la solidarité du régime, qui permettent de verser des allocations aux autres publics, les gens les plus éloignés de l'emploi. C'est un système très solide, très solidaire. Et qui est basé sur ce principe de solidarité intercatégorielle. Donc aujourd'hui, venir dire, eh ben, on va prendre à ceux qui contribuent le plus à la solidarité du régime sur leurs allocations chômage quand ils sont au chômage, c'est définitivement inacceptable, effectivement.
François Méril, vous avez même été un peu dur hier. Hein, vous avez parlé de populisme, d'opportunisme politique.
Oui, je pense que c'est un mot assez adapté parce que c'est assez inacceptable de pointer, c'est pas la première fois, le ballon d'essai, comme on dit, il est dans l'atmosphère depuis quelques mois, de pointer une catégorie qui se trouve être mise extrêmement à contribution. Je parle de la classe moyenne, on pourra dire la classe moyenne supérieure, peu importe. On parle des cadres, des gens qui sont engagés dans leur carrière.
En même temps, ça concerne très peu de personnes.
Alors, tout dépend. Moi, je défends un principe. Je dirais par habileté de communication, on cible le montant des allocations maximum que touchent 600 personnes,
euros bruts,
oubliant de dire quelle est la contribution de ces personnes-là et comment elles contribuent justement à cette solidarité-là. Il faut quand même rappeler que pour un cadre qui est au chômage, la moyenne de la rémunération de l'allocation qu'il touche, c'est de l'ordre de 2500 euros. Donc moi, je défends un principe assurantiel, considérant que dès l'instant qu'on s'attaque à ce principe-là, eh bien, on s'attaque à tout ce qui constitue la solidité, la robustesse et la cohérence du système de solidarité et d'assurance chômage.
Mais le chômage des cadres, en même temps, c'est un faible taux de chômage. Il y a 3,8% de taux de chômage chez les cadres. Donc on peut se dire que c'est ce que disait Gilles Legendre, le patron de la majorité à l'Assemblée. Finalement, ça concerne peu de personnes, des gens qui retrouvent du travail assez facilement. Donc on peut comprendre cette mesure.
Alors en fait, c'est faux. C'est faux parce que il faut bien voir que dans la population des cadres, il y a une très grande différence suivant l'âge que l'on a, l'expérience que l'on a, le niveau de responsabilité que l'on a. Quand on est un cadre responsable de communication, responsable commercial ou de fabrication, et qu'on se retrouve au chômage à 50 ans, victime d'un plan social, croyez-moi, c'est très compliqué, c'est très long de retrouver un travail du même niveau, de se requalifier. Et comme je dis souvent, une statistique ne décrit pas la réalité des situations individuelles. 3,6%, c'est à peu près le taux de chômage des cadres, suivant le niveau et la façon dont on le calcule. Mais quand un cadre se retrouve au chômage à 50 ans, il est au chômage à 100%. Et moi, je me bats pour que cette personne-là, qui a cotisé toute sa carrière, ne soit pas obligée de vendre sa maison pour pouvoir continuer à financer les études de ses enfants. Parce que très concrètement, c'est ça la situation à laquelle il va être confronté.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dit que plus l'indemnisation est élevée pour justifier cette décision, plus il y a une incitation à rester au chômage. Vous répondez quoi ?
Bah, je sais pas trop quoi lui répondre. Qu'est-ce que c'est que ce message qu'elle envoie à l'ensemble de la nation et à la population des cadres en particulier, qui serait de dire que, selon elle, une majorité des cadres qui sont au chômage, ben, finalement, trouveraient un intérêt à y rester comme s'ils étaient en vacances, comme s'ils profitaient d'une période où ils avaient économisé pour pouvoir, comme ça, à un moment de leur carrière, glander. Il n'y a pas d'autre mot. Mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, elle est que l'immense majorité des cadres qui se retrouvent au chômage, je parle de la population population la plus touchée par les plans sociaux, ceux dont les entreprises veulent se débarrasser après 45 ans, après 50 ans, après 55 ans, eh bien ces gens-là, quand ils se retrouvent au chômage, ils sont consacrés 10 heures par jour, 7 jours sur 7 à retrouver un emploi. Ils font des milliers de CV. Moi, je connais plein d'exemples, et de toute façon, je les apporterai à Muriel Pénicaud, de cadres qui se retrouvant dans ces situations extrêmement stressantes et précaires, parfois retrouvent un travail au bout de 2 ans, à 3 jours de basculer dans le RSA.
Alors, François Méril, de toute façon, il va y avoir quelque chose. On a bien vu la volonté du gouvernement. Est-ce que vous préférez finalement une dégressivité plutôt qu'un abaissement du plafond?
Ben, je veux ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre ne
alors
sont justifiés. Je veux dire aussi que la dégressivité est bien sûr une très mauvaise solution. Elle a existé et elle a été abandonnée parce qu'il a été jugé, j'allais dire presque scientifiquement, qu'elle était inefficace. Elle fait basculer les gens beaucoup plus vite dans la trappe à pauvreté.
Mais est-ce que vous avez les moyens, François Méril, aujourd'hui de proposer quelque chose, étant donné que les négociations ont achoppé entre partenaires sociaux?
Mais dans la négociation, nous avons proposé tout un tas de choses. Je vais faire simple. Sur la question de la partie qui coûte le plus cher à l'assurance chômage, qui est le surabus des contrats courts. On le sait bien, c'est entre 4 et 8 milliards d'euros. Là, on parle pour le coup de masse financière extrêmement importante. Nous avons proposé le principe d'une contribution dégressive, qui ferait que le contrat, plus il est court, plus il coûterait cher, par une taxation supplémentaire qui viendrait alimenter justement l'assurance chômage. C'est le principe du pollueur-payeur. Il se trouve que ça n'a pas été possible dans le cadre de la négociation. Chacun qui a suivi de près ce qui s'est passé a compris que du côté du camp patronal, c'était pas possible d'avoir un mandat pour pouvoir négocier ce principe-là. De notre côté, il faut bien le reconnaître aussi, nous n'acceptions pas le principe de réduire les droits des chômeurs, puisque ces droits, ils ont été acquis par des cotisations. Donc on était dans l'impasse, et cette impasse, elle a été constituée par la lettre de cadrage du gouvernement.
Mais aujourd'hui, je repose ma question, est-ce que vous avez les moyens d'influer sur le gouvernement, d'influer sur une décision?
Depuis 18 mois, presque 2 ans que ce gouvernement est à l'œuvre, on a usé beaucoup de moyens pour tenter d'influencer le gouvernement dans le bon sens, selon nous. Il faut reconnaître que ces moyens ont été assez peu efficaces. Mais moi, je suis un optimiste par nature, sinon je ne ferais pas de syndicalisme. Et je pense que la raison peut revenir au gouvernement. Et en l'occurrence, cette attaque qui est faite contre les cadres est une très mauvaise chose pour la société. C'est un très mauvais signal envoyé. Cette idée de dire que parce qu'on a fait des études, parfois, parce qu'on s'est investi dans sa carrière, parce que par son travail, par la prise de responsabilité, on a atteint une certaine position, eh bien il faut toujours cotiser plus et toujours recevoir moins. Croyez-moi, c'est un très mauvais signal envoyé à un pays.
J'entends bien François Méril, mais aujourd'hui, vous dites on a proposé des choses, mais finalement ça va, vous allez quelque part être obligé de faire avec. Donc en plus on vous demande de faire des économies pour l'assurance chômage, 3 milliards sur 3 ans. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment, cette vision, cette possibilité de dire on veut autre chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui est la fin du paritarisme? Les partenaires sociaux n'ont plus le choix et c'est le gouvernement qui décide. Donc...
Non, c'est pas la fin du paritarisme. Je veux constater avec tout le monde que le paritarisme s'est beaucoup affaibli par manque effectivement d'ambition des partenaires de construire ensemble, par ingérence.
Est-ce que c'est pas la faillite des syndicats finalement?
Non, c'est pas la faillite des syndicats, parce que vous savez, les syndicats, ils ont un travail à faire dans toutes les dimensions, ils sont très présents dans les entreprises, et moi je suis très satisfait de pouvoir vous dire que la CFE-CGC continue de se développer en audience et en nombre d'adhérents. Donc le syndicalisme, il a encore de beaux jours devant lui, il a un gros travail à faire d'adaptation et de représentativité. Mais le paritarisme, c'est une autre notion. Et dès l'instant qu'on est rentré en concurrence et non plus en complémentarité avec le pouvoir législatif du gouvernement, ça devient effectivement de plus en plus compliqué.
Merci beaucoup François Méril, président de la CFE-CGC, principal syndicat des cadres, d'avoir été l'invité du 5-7. Merci et belle journée.